Moi, c'est vrai que quand j'ai créé les Assises et que j'ai créé l'association Journalisme et Citoyenneté, parce que s'il y a quelque chose que je ne regrette pas, c'est ce titre qui, à mon avis, demeure tout à fait pertinent aujourd'hui. C'était un moment, il y a 10 ans, où les réseaux sociaux n'existaient pas encore, mais où il y avait cette idée que les blogs apparaissaient. Et que donc chacun pouvant, via son blog, s'exprimer vers le monde entier, chaque individu pouvant parler au monde, du coup, il y a eu ce sentiment qu'il n'y avait plus besoin des journalistes, puisque chacun pouvait être journaliste. Et c'était l'émergence d'un mouvement qui a été fort, hein. Il y avait même eu un projet des assises du cinquième pouvoir. Je me souviens, c'était les journalistes citoyens, et plus besoin il n'y a plus besoin de journalistes puisque tout le monde est journaliste. Et moi, ça me paraissait une aberration totale. Bon, évidemment, peut-être parce que moi-même, journaliste, je défendais un métier auquel je crois, mais aussi parce que je pense que la société a besoin des journalistes. Mais en même temps, ça remettait en cause quelque chose de fondamental et qui a profondément bouleversé le paysage depuis 10 ans, c'est que les journalistes étaient, il y a 10 ans encore, pouvaient encore espérer, les signes annonciateurs étaient déjà là, mais qu'ils pouvaient encore espérer être ceux qui détenaient l'information, qui avaient un magistère, qui allait chercher la nouvelle et qui la donnait au public qui, comme des oisillons dans un nid, attendaient. Il y avait donc derrière ça aussi de l'arrogance, il y avait du surplomb. Et journalisme et citoyenneté, c'était cette idée que oui, les journalistes devaient se remettre en question, devaient se remettre en cause par rapport à cette forme de ce qui a été souvent qualifié d'arrogance, en tout cas d'être non pas avec les citoyens, mais pensant à leur place. Et en même temps, de dire aux citoyens, mais c'est avec les journalistes que vous pourrez bâtir une information de qualité, parce qu'il faudra toujours un métier pour certifier l'information, pour la vérifier, pour la hiérarchiser, pour la mettre en perspective. Et ce qui peut-être a le plus marqué ce grand bouleversement, ce qu'on a appelé cette année aux Assises le grand bouleversement de ces 10 années incroyables où, il y a 10 ans, on n'avait pas les infos sur les smartphones, il n'y a pas Twitter, il n'y a pas Facebook, il n'y avait pas cette prescription horizontale. Moi, je pense que ce qui a le plus marqué en termes d'évolution au-delà de la technologie, c'est cette forme de prescription horizontale où je dis à mon ami, à mon réseau, tiens, regarde ça, vois ça, et ça devient ça la principale source de diffusion de l'information. Avec donc un avantage incroyable pour les citoyens, c'est qu'il a accès à des sources d'informations que jamais il n'aurait pu imaginer il y a simplement 10 ans, mais une perte de magistère pour le journaliste qui est très forte. Parce que il doit apprendre à ne plus être celui qui donne la nouvelle, mais à celui qui s'invente un nouveau rôle, qui est celui de la certification, qui est celui de la vérification, j'y insiste. Alors que, et on le voit depuis 1 an ou 2, le public, on n'est pas toujours absolument convaincu qu'il ait envie de ce travail-là parce qu'il a envie de croire à ce à quoi il croit. Donc cette apparition des fake news, de la post-vérité, de la vérité alternative, est quelque chose qui n'a, ça a toujours existé évidemment, le complotisme, là, tout ça a toujours existé, mais cette imprégnation profonde chez les citoyens qu'aujourd'hui, une information vaut une autre et que le fait qu'elle soit labellisée du Monde ou qu'elle soit labellisée de tel titre référent ou bien qu'elle vienne de je ne sais quel blog n'a pas finalement grande importance. L'important, c'est que ça me plaise, est un défi majeur pour les 10 ans qui viennent, pour essayer de passer un peu la prospective. Je pense que c'est cette question de la confiance. Alors après, pour répondre à ta question précisément, certes, on peut dire 10 ans d'assises pour restaurer la confiance, puisqu'on avait créé les assises pour dialoguer avec le public et restaurer la confiance. Vu à cette aune, le verre est à moitié plein, plutôt à moitié vide. Bon, mais en même temps, pas faire Sisyphe et Camus, mais je pense que c'est la noblesse de cette mission et l'éducation aux médias est au cœur de cet enjeu-là, que de remonter le caillou en haut de la colline. Et de ne pas cesser de se remettre en cause et de ne pas cesser d'aller dialoguer avec les citoyens pour leur dire quelle information vous voulez, essayez de vous impliquer vous aussi parce que vous ne pouvez pas vous exonérer de votre responsabilité. Oui, mais alors, prenons le cas des résidents et des journalistes. C'est une idée qui est née aux Assises. Je le revendique parce que je l'avais mis au programme des Assises de Poitiers en disant, mais après tout, artiste en résidence, c'est un dispositif qui fonctionne. Les collectivités se le sont appropriées, c'est soutenu par le ministère de la Culture, ça permet à des créateurs de venir dans les collèges, dans les lycées, dans des foyers d'éducation populaire, jeunes travailleurs, tout ce qu'on veut. Et pourquoi ne pas imaginer ce statut de journaliste en résidence? Bon, voilà, le ministère de la Culture a pu rendre possible ce statut de journaliste en résidence. C'est la deuxième année, ça prend corps, ça se développe. C'est une petite réponse, mais c'est une réponse. C'est-à-dire que tout d'un coup, un journaliste va, dans la durée, s'inscrire dans la réalité d'un territoire, un territoire politique de la ville en plus, donc plutôt difficile, et va forcément avoir un regard sur ce territoire qui sera différent, et ceux avec qui il va travailler, parce qu'il va être en appui d'un média de proximité, vont forcément avoir sur le journaliste professionnel un regard différent. Je pense qu'il y a un côté gagnant-gagnant dans l'affaire, même si c'est minime, qui doit être poursuivi. Donc ça me fait pour moi, ça fait partie des pistes qui doivent être poursuivies. L'éducation aux médias et à l'information, on le fait tous. Ici, cette année, il y a plus de 650 collégiens et lycéens qui viennent apprendre à faire de la radio, à s'interroger, à voir des documentaires, etc. Donc, on l'avait fait ensemble aux Assises de Metz. Enfin, je pense que c'est essentiel. Et en même temps, il faudrait passer à puissance 10. Voilà. Je pense que l'enjeu est tel. Voilà. L'enjeu est tel. Enfin, moi, dès la première année, l'éducation aux médias était présente aux Assises. Mais honnêtement, c'était un peu la semaine de presse à l'école, quoi. Enfin, c'est important qu'on aille transmettre notre métier. C'était plutôt une question de transmission, de narration. C'était pas ce sur quoi on travaille aujourd'hui, qui est quelque chose d'urgence démocratique. Enfin, je pense qu'il ne faut pas hésiter devant les mots. Il y a une urgence démocratique à dire l'information, ça s'apprend. C'est comme la culture. La culture, c'est pas demain j'ai envie d'aller à l'opéra. Non. Non, il faut une éducation musicale, il faut une éducation. Je pense qu'il y a une éducation à l'information. Tu sais que j'ai toujours combattu un peu le terme éducation aux médias parce que je trouve qu'il ne parle pas du fond du problème. On ne dit pas l'éducation au livre, on parle de l'éducation à la lecture. Et moi, l'éducation à l'information, en tout cas pour le spectre qui est le mien, en tout cas, je beaucoup bagarré pour qu'on dise d'ailleurs toujours éducation aux médias, parce que c'est ce qui est rentré dans le vocabulaire commun, et à l'information, parce que c'est comment se fabrique l'information. Alors certes, il y a d'autres questions qui se posent aux médias, sur la violence ou l'accès au cinéma, ou aux images, je ne veux pas minimiser tout l'enjeu qu'il y a dans l'éducation artistique sur les images, par exemple. Mais pour le spectre qui est le nôtre, je pense que l'éducation à l'information, et l'information, ça s'apprend. C'est-à-dire que décrypter, lire une nouvelle, et voilà, c'est ça, voilà. C'est simplement hallucinant. J'ai 5 ans, j'ai 10 ans, j'ai une avalanche d'émotions, de peur, d'excitation. Donc c'est un enjeu qui est devenu majeur avec les dérives. Je ne veux pas noircir le tableau, mais quand on parle de la question du djihadisme, ça passe quelque part par cette question de l'éducation à l'information. C'est-à-dire que ces petites vidéos que je reçois et qui me vantent, ça touche aussi au fait de société, cette crédulité par rapport aux messages reçus, aux émotions ressenties. Donc je pense qu'il y a l'éducation à l'information dans 10 ans, c'est d'abord un changement d'échelle. C'est-à-dire que c'est dire que l'éducation nationale doit rentrer ça dans ses obligations, je le pense. Enfin, je le pense profondément. C'est fabriquer les citoyens de demain sans un engagement maximum sur qu'est-ce que c'est que l'éducation et l'information, que les familles s'impliquent dans cette réflexion, puisque sans ça, on ne peut pas y arriver. Ce n'est pas juste le formateur ou le prof et l'enfant, voire même avec le journaliste à côté, qui peut régler cette question. Si derrière, dans la famille, il n'y a pas une prise en compte de ça, s'il n'y a pas aussi une... Donc il faut que les fédérations de parents d'élèves, qu'on a essayé de rassembler hier, l'éducation populaire, les associations familiales s'engagent elles aussi, mais de façon concrète. C'est-à-dire que l'éducation populaire qui dit oui, on fait l'éducation aux médias, mais qui en fait à la marge du cahier. Enfin, pardon, mais je l'ai dit hier à la Ligue d'enseignement. Quand est-ce que nous, on a lancé un appel hier aux Assises pour dire il faut que dans chaque rédaction, il y ait un correspondant éducation aux médias. Ça a l'air de rien, mais ça veut dire que dans chaque rédaction, il y a une prise de conscience suffisante pour qu'on dise tiens, je peux faire appel à un tel, je sais qui est en charge de cette question, et je ne sais pas si cet appel sera suivi, mais on va essayer de relayer cet appel vraiment auprès de toutes les rédactions. Et bien, dit, même en éducation populaire, quel est, dans les 20 000 associations de la Ligue d'enseignement, qui est responsable de l'éducation aux médias? Donc je demande au mouvement éducation populaire, sur les territoires, de dire, voilà, il faut se mettre en ordre de bataille, et à un tout autre niveau que ce qui est engagé actuellement. Donc, mobilisation, je dirais premier terme. Mobilisation, changement d'échelle, sortir de l'école, considérer que le citoyen ne se forme pas qu'à l'école. Donc évidemment, l'école est le cœur du sujet, mais c'est aussi dans sa périphérie qu'il faut que l'éducation aux médias, elle soit dans les médiathèques, elle soit dans les bibliothèques, il faut qu'elle soit partout, encore une fois, où on se forge les citoyens de demain. Donc je dirais ça. Et après, s'interroger sur les outils. Alors là, c'est là où on est dans la... perspective, prospective, où là, il n'y a plus de réel, mais qu'est-ce que sera la matérialisation de l'info dans 10 ans avec les objets connectés dont on sent, dont, voilà, dont, voilà, voilà, dont on sent bien que on voit bien que ces objets connectés vont prendre une place considérable. On ne sait pas encore très bien sous quelle forme, mais ça va être donc ces objets de notre quotidien qui vont entourer les citoyens de demain. Comment je les contrôle? Moi, je dirais que dans tous les spectres de ce qui a été évoqué sur l'information en 10 ans, et j'en retiendrai deux ou trois, c'est un, la question du libre arbitre face aux algorithmes, c'est-à-dire que je pense qu'un des risques majeurs des algorithmes, c'est qu'ils ont plein de vertus, c'est-à-dire qu'ils nous permettent d'accéder le plus rapidement possible à l'information que l'on souhaite. Ils ont un très gros inconvénient, c'est qu'ils nous enferment dans une sorte d'univers informationnel prédéfini, c'est-à-dire qu'en fonction de mes habitudes, de mes goûts, machin, on me bombarde de ce que j'ai envie de lire. Or, s'informer, c'est aussi aller voir ce qu'on n'a pas envie de lire, c'est aussi tomber sur un article. Et je pense que ça, c'est un des enjeux de l'éducation aux médias, c'est comment faire en sorte de ne pas être prisonnier de son bot, de son robot, de son serveur vocal, de son qui va vous dire « Tiens, toi, tu es un amoureux du tennis, de l'actualité au Maroc et de machin, etc. et je te sers que ça sous toutes ses formes. » Ça peut être une prison. Donc je pense qu'il y a un sujet là. Et un autre sujet, me semble-t-il, autour du data, c'est-à-dire ces milliards d'informations qui sont le pétrole de l'information de demain, qu'on ne sait pas trop faire parler aujourd'hui, qu'on commence à faire parler. Comment on hiérarchise ça? Quelle traçabilité? Honnêtement, on n'en sait trop rien. Je pense que c'est un gros enjeu aussi d'éducation à l'information. Il y aurait aussi que, honnêtement, là, c'est plutôt des pistes de réflexion. Il n'y en a peut-être aucune qui est valide. Ça a été assez bien dit hier par Géraldine Mühlmann dans un débat, c'est la question de l'attention. Je ne sais pas comment on appréhende ça, mais je pense que c'est une question vraiment très importante. Ce temps de cerveau disponible dont parlait Lelay, mais qui finalement parlait d'une vraie question, ce gamin, est-ce qu'on a l'attention de même nature quand on est en train de sauter et que quand on est sur un article long, sur un papier, dans un livre? Je ne pense pas. Est-ce qu'on n'est pas en train de fabriquer une intelligence différente? Est-ce qu'on n'est pas... je ne sais pas après comment ça se travaille, mais je pense qu'il y a un gros sujet autour de l'attention. Est-ce que si les gamins de demain doivent avoir trois trucs en même temps parce qu'ils écoutent le prof, ils regardent une vidéo, et voilà, parce que c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a comme pédagogie autour de ça? Moi, j'ai quelques pistes autour desquelles, à mon avis, il faut réfléchir. Mais quelle que soit la réponse dans 10 ans, je pense que surtout, si on ne veut pas louper le coche, c'est-à-dire que dès maintenant, sans attendre 10 ans, qu'il y a un changement d'échelle.